France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, Paris-Alger, le point de non-retour. Et la France a-t-elle perdu le sens du dialogue social ? Nos débatteurs ce dimanche, Magali Lafourcade, bonjour.
Bonjour.
Magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous avez publié Les droits de l'homme au PUF dans la collection Que sais-je ? Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Directeur des éditions du CERF, Occident ennemi mondial numéro 1, c'est votre dernier livre chez Albin Michel. Je précise que vous avez par ailleurs édité, entre autres auteurs, Boilem Sansal. Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit. Le dernier numéro de la revue Merleau-Ponty à l'âge de l'Anthropocène. Et Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Consultant d'affaires européennes, enseignant à l'ECP Business School et au Corps des Mines, ancien directeur de l'Institut Jacques Delors. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons le fameux conclave sur les retraites. Ces négociations censées permettre aux partenaires sociaux d'amender la réforme de 2023. Discussion sans totem ni tabou avait promis François Bayrou. Mais en refusant de revenir sur la retraite à 64 ans, le Premier ministre a crispé les syndicats. Le conclave a du plomb dans l'aile, tout comme le dialogue social. Et ça ne date pas d'hier, nous en débattrons. Mais pour commencer, cette crise qui n'en finit pas entre Paris et Alger, malgré les paroles conciliantes du ministre français des Affaires étrangères, c'était mercredi soir, depuis la Grande Mosquée de Paris.
La France est attachée à sa relation avec l'Algérie, avec laquelle nous sommes unis par des liens complexes, mais d'une densité sans équivalent et des intérêts partagés. Les tensions actuelles, dont nous ne sommes pas à l'origine et qui ont connu hier un nouveau développement problématique, ne sont dans l'intérêt de personne, ni de la France, ni de l'Algérie. Nous voulons les résoudre, avec respect bien sûr, mais avec exigence, franchise et sans faiblesse, sans rien céder sur les intérêts des Français qui sont notre boussole.
À propos du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, c'était donc mercredi avec ce torchon donc qui n'en finit plus de brûler entre Paris et Alger. Pas une semaine désormais sans que d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, chacun accuse l'autre de provocation ou de surenchère. Alors certes, depuis l'indépendance en 1962, les relations entre la France et l'Algérie ont connu d'autres convulsions, mais de cette ampleur, jamais. Dernier épisode en date, les réquisitions du parquet algérien contre Boilem Sansal. 10 ans de prison. Le tribunal rendra son jugement jeudi prochain. L'écrivain franco-algérien, malade et âgé, est détenu depuis le mois de novembre. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Derrière cette accusation, il y a le cas du Sahara occidental, territoire revendiqué par le Maroc, qui en contrôle 80%, et par les indépendantistes du Front Polisario, soutenu par Alger. Il est reproché à Boilem Sansal d'avoir tenu des propos en faveur de la position marocaine. Et c'est d'ailleurs ce dossier du Sahara occidental qui est à l'origine de la nette dégradation des relations entre les deux pays. En juillet dernier, Emmanuel Macron s'est officiellement rangé du côté de Rabat en soutenant la souveraineté marocaine sur ce territoire. Depuis, les crises se succèdent sur fond de tensions migratoires. L'expulsion ratée d'un influenceur algérien, certains Doualem, renvoyé vers Alger après des propos appelant à la violence, puis réexpédié vers la France, condamné ensuite à de la prison avec sursis et à nouveau interpellé cette semaine. Bref, ce feuilleton a lui aussi cristallisé les tensions. Le ministre de l'Intérieur en a fait son principal cheval de bataille. Bruno Retailleau accuse l'Algérie d'agresser la France et menace de remettre en cause les accords qui permettent aux Algériens de circuler plus facilement d'un pays à l'autre. En 2022, Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune avaient pourtant relancé la relation bilatérale en créant une commission paritaire composée d'historiens afin de tenter d'écrire une histoire commune, une politique mémorielle visant à solder les années de guerre et construire la réconciliation. Et aujourd'hui, on en est loin. Jean-François Colosimo, je voudrais commencer avec vous. Je précisais le fait que vous avez édité...
Le dernier livre de Boilem Sansal dans l'œuvre... majeur est publié chez Antoine Gallimard.
Et vous faites d'ailleurs partie du comité de soutien à l'écrivain franco-algérien. D'abord, première chose, est-ce que vous avez des nouvelles de Boilem Sansal aujourd'hui ? Donc on sait qu'il est en détention et qu'il attend l'énoncé de sa peine, ce sera dans la semaine.
Depuis son arrestation, nous n'avons aucune nouvelle directe de Boilem Sansal. Ah, puisque d'une part, les Algériens, le régime algérien refuse qu'il reçoive la visite de son avocat français, Maître Zimré, Zimri n'a pas de visa, tout simplement, n'est-ce pas ? Quand il n'est pas, en fait, aussi largement calomnié dans la presse gouvernementale comme étant un avocat juif, il faut le dire et le souligner. Donc, nous sommes véritablement coupés, je dirais, de Boualem Sansal, et nous n'avons pas de nouvelles venant de lui. Tout ce que nous savons, c'est ce feuilleton juridique, n'est-ce pas, qui ne laisse rien présager de bon. Évidemment, l'inculpation est tout à fait outrancière et n'a aucun sens. On n'enferme pas un écrivain dont l'œuvre principale constitue d'ailleurs des romans, n'est-ce pas, juste pour le tenir otage d'une situation avec la France. Parce que c'est effectivement, vous l'avez dit, l'affaire du Sahara occidental et la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur ce Sahara occidental, qui a fait que Boualem Sansal, qui n'a jamais voulu quitter son pays, mais qui bénéficie de la double nationalité franco-algérienne, est retourné comme à son habitude en Algérie, et cette fois-ci s'est fait arrêter, alors qu'il faut savoir qu'en plus, son œuvre n'est pas connue en Algérie, puisque c'est un écrivain d'expression française. Deuxièmement, elle n'est pas traduite. Troisièmement, il n'est pas un personnage du tout médiatique. Simplement, il est, depuis 30 ans, à travers ses romans, un critique, n'est-ce pas, de quoi ? Bah, du mensonge sur l'indépendance et ce qui a suivi surtout, c'est-à-dire la captation par un régime autoritaire de la liberté retrouvée d'un peuple, le phénomène de l'islamisation, sa collusion avec le pouvoir, la réalité d'une oligarchie qui vit sur la rente des ressources énergétiques et qui n'assure pas du tout le développement de son peuple, et puis aussi cette attitude totalement offensive à l'égard de la France, où finalement le régime algérien ne cesse de clamer une exception qui ne vaut d'ailleurs pour aucun autre pays jadis colonisé par la France. Pensez simplement au Vietnam, n'est-ce pas ? Le Vietnam aurait des revendications lourdes, n'est-ce pas ? Et en plus, le Vietnam, lui, il avait été vainqueur militairement. On n'entend pas du tout de revendications à part du Vietnam comme celle de l'Algérie.
Donc on peut dire et donc
aujourd'hui, il est l'otage. Est-ce que, ouais, en fait, le régime a décidé de le faire mourir en prison, parce que une peine de 10 ans telle qu'a réclamé le procureur à son âge, avec le cancer dont il souffre, c'est la certitude de son décès rapide, ou alors reste-t-il en fait une espèce de jeton que de manière très cynique le régime algérien joue avec la France pour en faire la partie d'une négociation qui n'aurait d'ailleurs rien de diplomatique, mais qui correspondrait en fait à un racket sur la vie de Boualem Sansal.
En tout cas, on peut dire, Jean-François Colosimo, qu'il est directement victime de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Sans cette crise, Boualem Sansal ne serait peut-être pas aujourd'hui en prison.
Alors, on n'en sait rien, parce qu'il était quand même très gênant pour les autorités, et lui-même savait que sa sécurité n'était pas complètement assurée, parce qu'en Algérie, il n'y a pas que l'emprisonnement, il y a parfois des accidents mortels aussi, qui se produisent à l'encontre des personnalités dissidentes, n'est-ce pas ? Mais c'est un homme tout à fait remarquable, il faut le dire quand même, de paix, de gentillesse, un écrivain puissant à la manière des grands écrivains latino-américains des années 70, une œuvre internationalement reconnue, il a plus de lecteurs même en Allemagne qu'en France, n'est-ce pas ? Et cet homme-là qui est placide, qui est un poète en fait, aujourd'hui est dans la pire des situations qui soit, c'est-à-dire non seulement emprisonné, mais muselé et ignorant tout de son proche devenir.
Magali Lafourcade, au-delà du cas de Boualem Sansal, qui est le principal responsable, si tant est qu'on puisse en définir un, de la crise diplomatique de ces derniers mois entre la France et l'Algérie ? Est-ce que c'est un peu plus l'Algérie ? Est-ce que c'est un peu plus la France ? Est-ce que c'est équilibré ?
Alors, je crois que c'est compliqué de répondre à cette question parce que ça manquerait quand même un peu de nuance. On a clairement un régime autoritaire, Jean-François Colosimo l'a rappelé, qui refuse le pluralisme, qui tourne le dos au droit de chacun de retourner dans son pays, à la liberté d'expression des intellectuels.
Enfin, ça, c'est l'Algérie.
Ça, c'est l'Algérie. Mais on a aussi un ministre de l'Intérieur qui a fait monter les enchères autour d'une équation politique personnelle, puisqu'en fait, on sait bien que derrière ce qui se passe autour des OQTF, hein, donc des obligations de quitter le territoire français, on a une obsession sur l'Algérie, alors que d'autres pays du Maghreb font pas mieux ou font pas pire en termes d'exécution de ces obligations-là. Et ramener la relation bilatérale franco-algérienne à juste un sujet d'expulsion de personnes jugées dangereuses dangereuses ou pouvant causer du trouble à l'ordre public, c'est vraiment très très réducteur. Et je trouve que dans la gestion de cette crise, tout est à front renversé. C'est-à-dire qu'on a un ministre qui lui-même est engagé dans une guerre interne de parti autour de qui n'intéresse que 40 000 adhérents, hein, autour donc de la présidentielle ou la direction du parti LR, qui a fait du sujet algérien un totem et qui est dans un rapport de force extrêmement visible et très méprisant aussi pour toute une population française d'origine algérienne, pour toute une migration de gens très qualifiés. On a besoin de médecins, on n'arrête pas d'expliquer, les médecins algériens sont remarquables. Voilà. Et puis qui est aussi très violente vis-à-vis de tout un tas d'intérêts qu'on a, puisque la sécurité, ce n'est pas que les OQTF, c'est aussi le dialogue stratégique. Or, l'Algérie est un pays sur lequel on a pu compter pour pouvoir passer au Sahel. La France a très peu d'influence maintenant dans une partie de l'Afrique. Et là, on voit que dans les mesures de rétorsion, il y a l'idée de ne plus utiliser le français comme langue dans certaines universités. Il y a les accords commerciaux qui se font plus avec l'Italie et la Chine qu'avec la France. Enfin, on voit que tout un tas de liens qui étaient extrêmement utiles et d'intérêts convergents peuvent être minés par cette crise. Et on entend aujourd'hui un ministre de l'Intérieur dire qu'il faut remettre en cause des traités qui sont de l'apanage du président de la République. Un ministre de la Justice qui dit qu'il faudrait peut-être appeler l'ambassadeur de France qui est sur place, alors que ce n'est pas de l'apanage du ministre de la Justice, mais de l'apanage du ministre des Affaires étrangères. Tout est géré de façon cacophonique.
Alors ce rapport de force d'ailleurs que tente d'instaurer Bruno Retailleau, le président algérien le lui refuse, hein, et va finalement un petit peu dans votre sens Magali Lafourcade. Il a répondu à des journalistes hier en Algérie, Abdelmajid Tebboune. Il disait tous les problèmes doivent se régler avec le président français ou avec le ministre des Affaires étrangères. Sous-entendu, ça n'est pas au ministre de l'Intérieur français de gérer ces questions. Alors si on ramène justement peut-être au niveau du président français Yves Bertoncini, est-ce que Emmanuel Macron, alors qui je le rappelais, en 2022 a été avec Tebboune, hein, aussi d'ailleurs à l'initiative pour essayer d'avancer vers la réconciliation. On peut aussi rappeler que pendant la campagne présidentielle en 2017, Emmanuel Macron avait parlé de crimes contre l'humanité pour parler de la colonisation. Donc il y avait quand même bien une volonté de réconciliation, de rapprochement avec l'Algérie. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est parce que lui s'est rendu compte que ça ne marcherait pas? Ou bien est-ce qu'il a fait aussi des faux pas?
Ben on peut se demander, oui, ce qui s'est passé là, parce qu'il y a un tête-à-queue assez fâcheux dans des relations, hein, sur une plus longue période franco-algérienne, qui ne sont pas un long fleuve tranquille. Hein. Monsieur Tebboune a dit ce matin qu'effectivement, il y avait parfois des coups de sirocco et parfois des coups de froid. Bon, ben là, on est clairement dans un coup de froid. Wari Boumediene avait dit à son époque que les relations entre la France et l'Algérie, c'était un président algérien, hein, deuxième, ne seraient jamais normales. Voilà, elles seraient soit bonnes, soit mauvaises. Bon, là, elles sont mauvaises. Alors, pourquoi sont-elles mauvaises? Vous l'avez dit, pourtant, le président Macron a fait des ouvertures. Il est allé en Algérie deux fois. Il y est allé la dernière fois en 2022 avec la moitié de son gouvernement. Il y a eu un travail mémoriel, on y reviendra peut-être, parce que évidemment, ça pèse dans les relations entre les deux pays, y compris d'ailleurs parfois dans le complexe un peu post-colonial qu'ont nos élites, ou certaines de nos élites vis-à-vis de l'Algérie. Et puis, ben, au milieu de tout ça, il y a eu un acte, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Pour ma part, je n'en vois pas les fondements, je n'en vois pas les bénéfices, mais il faudrait peut-être qu'on nous les explique. Pourquoi la France a-t-elle pris cette position? Peut-être y en a-t-il des bénéfices, mais en tout cas, les inconvénients, on les voit bien, parce qu'il était certain que ça allait dégrader les relations avec l'Algérie, tant la France avait eu sur un sujet comme ça une position, on va dire, plutôt neutre, plutôt équilibrée. Et d'ailleurs, l'ONU continue à dire que c'est un territoire disputé. Bon, la France a fait ça.
Bah, les bénéfices, c'est peut-être de renforcer la relation avec le Maroc.
Oui, mais alors, pourquoi? Sur quel sujet? Parce que Magali Lafourcade a très bien rappelé que l'Algérie est un pays plus gros, qu'il a des hydrocarbures, c'est pas le cas du Maroc, que sur le plan sécuritaire, effectivement, l'Algérie est quand même une puissance africaine, qu'elle nous aide à lutter contre le terrorisme islamiste. Ce régime a lutté contre le terrorisme islamiste, mais pas seulement en Algérie, en Sahel, dans la région subsaharienne où nous perdons du terrain. Et donc voilà, premier élément, ça. Et ça, c'est un fait générateur français. Et puis deuxième, d'un mot quand même, parce que c'est très important, tout a basculé sur un registre émotionnel. Voilà. Et moi, je me suis dit, J'ai été en poste à Alger il y a une trentaine d'années, à l'ambassade justement. Au moment, je connais la dimension émotionnelle de ces relations, je l'ai un peu expérimenté. Au moment où Bruno Retailleau, alors que l'Algérie refusait ce que plein de pays font, y compris le Maroc et la Tunisie, de rapatrier un OQTF, un influenceur, je ne parle pas d'un meurtrier ou d'un criminel, un influenceur, qui appelait à la violence, certes. L'Algérie a refusé. Et Bruno Retailleau a dit « La France est humiliée ». Alors là, je me suis dit « C'est foutu ». C'est parti sur le registre émotionnel. Je voudrais d'abord dire à Bruno Retailleau que la France n'est pas humiliée. Quand ça arrive tous les jours, un OQTF n'est pas repris par le Maroc, l'Algérie, le Mali, etc. La France a précédé Bruno Retailleau et elle lui survivra simplement. Peut-être que lui s'est senti effectivement offensé, humilié. À partir du moment où on glisse sur cette pente émotionnelle, à partir du moment où effectivement ça a été dit, on a un ministre de l'Intérieur qui est plus en train de s'adresser aux militants des Républicains qu'aux citoyens de notre République, à ce moment-là, effectivement, il est temps que le président de la République, le ministère des Affaires étrangères, reprenne la main et qu'on essaye de mettre un peu plus de réel politique pour apaiser les tensions et reprendre le fil normal, pas normal puisque ça sera jamais normal, mais constructif des relations bilatérales.
Encore un mot justement sur cette dimension émotionnelle, Yves Bertoncini. Vous disiez donc, il y a une trentaine d'années, dans les années 90, vous avez été en poste à l'ambassade de France en Algérie, vous étiez chargé des programmes d'échange entre étudiants boursiers. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas aussi un des problèmes justement sur le long terme, c'est-à-dire même depuis moi, l'indépendance, c'est-à-dire que ces relations-là entre un pays, la France, et son ancienne colonie, l'Algérie, que d'être le plus souvent sur des questions émotionnelles et que c'est ça qui rend compliqué cette relation.
Non mais absolument, il y a toute une histoire qui n'a pas été une histoire pacifique. La guerre de conquête française en Algérie a suscité de nombreux morts et la guerre d'indépendance a suscité également de nombreux morts. Voilà. Donc c'est factuel, il y a ce qui s'est passé entre les deux. Bien sûr que le régime algérien, et Jean-François Colosimo l'a rappelé, ne vit pas seulement de la rente des hydrocarbures, il veut aussi de la rente mémorielle, mais enfin, on ne découvre pas ça. Il faut pas lui donner des occasions de faire fructifier cette rente-ci. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe là. Si on réouvre toute l'histoire de la colonisation, etc., et de manière parfois un peu outrancière. Mais encore une fois, si on est plutôt sur le plan opérationnel, le programme boursier que vous évoquez, dont M. Tebboune vient d'annoncer la suppression, moi, ça m'a touché quand il a dit ça. C'est, je dirais, un outil de coopération, mais également un outil de l'influence française en Algérie. Et si on s'en prive, eh bien, on se privera d'un levier qu'on avait vis-à-vis de l'Algérie, pour avoir des relations constructives avec eux, peut-être parfois effectivement faire venir des gens se former en France, dont certains restent, les médecins ont été mentionnés. Vous savez, les Algériens se plaignaient déjà à l'époque qu'une partie des boursiers qui venaient en France ne retournaient plus en Algérie. Mais pourquoi ? Parce qu'ils fertilisaient, j'allais dire, l'économie française. Voilà. Et donc, si on en revient à des considérations un peu plus pragmatiques, on pourra retrouver, je dirais, une relation constructive, mais là, effectivement, tant que les Républicains sont en campagne, j'ai l'impression que ça va être difficile.
Anne-Lorraine Bujon.
Oui, alors bien sûr, il y a des enjeux de mémoire, bien sûr, il y a une histoire coloniale compliquée, encore en partie très mal connue en France. Donc, bien sûr, il y a des enjeux et des questions de ce côté-là, mais il me semble que aujourd'hui, quand on renvoie à cette question des mémoires, soit du côté d'Emmanuel Macron quand il parle de rente mémorielle, soit aussi, je crois, du côté du président Tebboune, c'est-à-dire que quand il, avec pas mal d'habileté, ce matin ou hier quand il dit moi je ne traite qu'avec le président de la République, donc il rappelle effectivement que si c'est une crise diplomatique, si c'est bien une crise diplomatique, il peut avoir affaire au président de la République ou les ministères des Affaires étrangères peuvent discuter entre eux, mais il me semble aussi que, mais qu'il ne veut pas avoir affaire au ministre de l'Intérieur, mais en faisant ça, moi je trouve qu'avec pas mal d'habileté, c'est peut-être un peu retors, il cherche à installer Emmanuel Macron dans sa position gaullienne, face à une droite ou une extrême droite en France qui continue d'adopter des positions très radicales sur tout ce qui a trait à l'Algérie. Donc c'est aussi ça qui est en train de se rejouer. Mais en fait, je me méfie un peu de ce renvoi aux questions de mémoire. Donc on disait registre émotionnel ou registre symbolique parce que il me semble que tout ça sert d'écran à des préoccupations qui sont extrêmement contemporaines, qui sont bien de notre époque et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la guerre d'Algérie. Que ce soit chez nous ou en Algérie, parce que il faut quand même dire, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais que il y a eu un grand mouvement de soulèvement de la population algérienne entre 2019 et 2021 avec des manifestations tous les mois. Le peuple algérien manifestait qu'il ne voulait plus de ce régime autoritaire, corrompu. Il ne voulait spécifiquement pas d'un cinquième mandat du président Bouteflika. Et tout ça a un peu fait flop au moment du Covid. Et il en est sorti, quoi, le président Tebboune, et qui depuis n'a fait que poursuivre la répression de ce qu'il restait de ce mouvement populaire. Et donc, de ce point de vue, je connais beaucoup moins bien les circonstances de l'emprisonnement de Boualem Sansal que Jean-François Colosimo, mais si vous voulez, c'est un écrivain ou un intellectuel ou un journaliste ou un éditeur de plus qu'on jette derrière les barreaux dans ce qui ressemble à un verrouillage systématique de l'espace public algérien. Donc effectivement, là, la mémoire coloniale, elle a bon dos, parce que je pense que ce qui se joue en Algérie, c'est de nature assez différente, de même que ce qui se joue chez nous, c'est de nature assez différente, quand systématiquement les Français binationaux sont présentés comme des ressortissants étrangers, ou quand on vous explique là dans la séquence, dans la foulée de toute cette séquence, que pour résoudre le problème des prisons françaises, on va les vider de tous leurs ressortissants étrangers.
Juste ça, c'est dans ce que préconise séquence... Gérald Darmanin hein, ce voilà. matin dans le journal
oui,
du dimanche.
Enfin, juste dans la séquence de toute cette affaire, de la liste des personnes sous le coup d'une OQTF qui devraient absolument retourner en Algérie. Enfin, je pense que tout ça est de nature vraiment à rendre extrêmement confus le débat sur ces questions et qu'il faut tous qu'on s'en méfie.
Sur la dimension mémorielle, Magali Lafourcade, on a quand même vu un épisode en France. Alors, je ne sais pas s'il est significatif ou pas, mais c'est le journaliste Jean-Michel Apathy sur RTL qui parle de la guerre d'Algérie, de ce qu'a fait la France pendant la colonisation. Et il dit que l'armée française a commis plusieurs Oradour-sur-Glane en Algérie. Ça a créé une énorme politique. Jean-Michel Apathy a fini par quitter RTL. Il y a eu beaucoup de critiques. On a vu à quel point, là aussi, ça avait réveillé des souvenirs. Donc, est-ce que cette question mémorielle, elle est aussi présente en France? Elle explique aussi cette difficulté à avoir des relations saines avec l'Algérie aujourd'hui?
Oui, moi je crois qu'on a vu le retour un peu du refoulé, c'est-à-dire que y a beaucoup de générations dont je fais partie qui n'ont pas du tout eu d'enseignement sur ça, ni la guerre de conquête de l'Algérie en 1930, ni la guerre d'indépendance. Et du coup, avec cette controverse autour des propos de Jean-Michel Apathy, nous sommes donc nombreux à avoir découvert ce que des historiens disent à longueur de temps, et Benjamin Stora a expliqué que Jean-Michel Apathy avait quand même permis de lever le voile sur des choses qui sont factuellement posées, les les tortures, les enfumades, les emmurés vivants. Moi, tout ça, j'ai découvert à ce moment-là. Et donc, je crois qu'il y a, cette dimension-là de la guerre de conquête. On est quand même presque 200 ans plus tard. Et c'était quand même une guerre après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, les crimes de guerre n'étaient pas conceptualisés comme ça à ce moment-là. Mais ça relève de cet ordre-là. On est dans cette dimension. Et puis, j'observe aussi qu'il y a une minorité en France qui est donc de droite extrême ou d'extrême droite qui est obsédée par l'Algérie. Et ça aussi, je ne m'attendais pas à voir à quel point ça ressort maintenant, une minorité agissante qui, à travers ce discours autour des OQTF, permet de revenir sur la légitimité de l'accord de 1968 et de demander sa révocation, sa dénonciation, ce qui ne semble pas techniquement possible d'ailleurs.
Accord de 68, donc sur les facilités sur de circulation, pour ouais, résumer voilà. À l'extrême.
Pour faire résumer, parce qu'après, il y a eu plein d'autres accords, notamment celui de 94. Mais donc, on a quand même, le mémoriel est là, à la fois autour de ces nostalgiques de l'Algérie française, qui se révèlent être très, très, avec une très grande vitalité dans le débat public actuellement. Et puis, on découvre aussi des horreurs qu'on aurait dû mieux documenter et qui me semblent être incontournables. Ça fait 200 ans, il faudrait quand même qu'on ouvre ce chapitre.
Jean-François Colosimo.
Ouais, j'avoue que je suis un peu sidéré. Lorsque, en fait, Boualem Sansal a été arrêté, il s'est trouvé des voies en France pour le mettre en procès, parce qu'il aurait eu quelques déjeuners inconvenants aux yeux de ceux qui voulaient en fait le calomnier. Le procès Retailleau, c'est pas la question. Le procès, c'est le procès Tebboune, c'est le procès Boumédienne, c'est le procès d'un régime qui, pour le plus grand malheur des Algériens, en fait, n'exerce pas le malheur de l'Algérie à cause de la colonisation, mais à cause du choix qui a été fait par Boumediene en 1965 de devenir soviétique, de transformer à l'Algérie à une sorte de deuxième Allemagne de l'Est ou de deuxième Corée du Nord, avec une police politique, avec la suppression de toute liberté d'expression. Ça, c'est pas la colonisation, c'est pas Bugeaud, c'est pas etc. Ça n'a aucun rapport. Depuis 60 ans, en fait, il y a un régime qui procède par lutte interne, élimination, excommunication. D'ailleurs, dès les années 1960, les exclus de la guerre d'indépendance, n'est-ce pas, qui se voient pourchassés par cette oligarchie militaro-mafieuse. Où est-ce qu'ils trouvent refuge? En France, n'est-ce pas? Eux, ils n'ont pas de ressentiment à l'égard de la France. C'est pas l'histoire de la colonisation qui les gêne. Ce qui les gêne, c'est d'être pourchassés par un régime inique à domicile. C'est ça, la véritable question, n'est-ce pas? Alors ensuite, évidemment, là, à mon avis, si à Alger, on écoute notre émission, on se frotte les mains, n'est-ce pas? La question algérienne est devenue la question Retailleau d'un coup. Enfin, c'est un détail, je veux dire. D'abord,
bah, c'est quand même lui qui met cette question
Ministre de l'Intérieur, puisque l'Algérie piétine tous les accords. L'accord de 1968, qu'en fait il faudrait réviser, c'est un accord qui déjà suppléait au fait que l'Algérie n'observait pas les accords d'Évian de 1962 et ne les respectait pas. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des médecins, n'est-ce pas, il y a trois fois plus de médecins en France qu'en Algérie. Si l'Algérie se vide de ses médecins, s'ils viennent en France, et tant mieux, je veux dire, c'est que la France, pour ses médecins, comme pour les intellectuels, comme pour les politiques, comme pour les activistes humanitaires, reste un arrière-pays favorable face à cette machine faussement étatique qui, encore une fois, relève véritablement du régime autoritaire. C'est ça la véritable question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va continuer ou non à laisser ce régime autoritaire nous imposer sa loi, et chaque fois qu'il nous impose sa loi, on finira dans une espèce de querelle picrocolline digne du pire village gaulois?
Oui, mais Jean-François
Colosimo, même pour les Algériens qui aspirent à la liberté, ça n'est pas respectueux.
Jean-François Colosimo, le fait d'être confronté à un régime autoritaire ne doit pas nous empêcher de nous pencher aussi, nous, sur notre responsabilité ou sur rapport par rapport à cette histoire-là.
Mais cette histoire-là, je vais vous dire, elle est infiniment plus travaillée et connue en France qu'en Algérie. C'est ça la vérité aussi. Alors bon, je veux bien que d'un coup on découvre les horreurs de la colonisation. Ces horreurs n'ont jamais été caché depuis 30 ans, où il y a un essor sur les études sur la colonisation en Algérie qui sont énormes. Il suffisait de s'informer, n'est-ce pas? Ces horreurs ont existé. C'est inconsidéré de les comparer avec la machinerie nazie, parce qu'il n'y avait pas d'ambition génocidaire. Il y avait une ambition de conquête avec des horreurs, mais il n'y avait pas d'ambition génocidaire. Donc ça, c'est parfaitement inconsidéré. C'est toujours l'usage de l'occupation comme l'horizon indépassable de la petite pensée française. Mais à part ça, la véritable question, c'est Boualem Sansal va-t-il sortir? Et avec lui, est-ce que les Algériens vont pouvoir s'émanciper? Ces Algériens qui ont manifesté, Marie-Lorraine l'a dit, pendant 2 ans, 3 ans, sans succès, n'est-ce pas? Dernier point, il n'y a pas eu que la soviétisation. Le régime actuel est aussi responsable de l'islamisation de l'Algérie à travers l'arabisation qui a été confiée, en fait, aux frères musulmans.
Bon, sur la mauvaise connaissance des crimes de la colonisation, je vous trouve un petit peu sévère quand même, Jean-François Colosimo, avec ce qu'a dit Magali Lafourcade. Yves Bertoncini.
Je voudrais dire d'abord 2 choses. Boualem Sansal n'a rien à faire en prison et j'espère qu'il va en sortir le plus vite possible. Deuxièmement, tout ce qu'a dit Jean-François Colosimo sur la nature du régime algérien actuel, j'y souscris pleinement, mais j'allais dire raison de plus. On sait à qui on a affaire.
Ben, qu'on le sait vraiment?
On traite. Oh, je crois que le Quai d'Orsay, il y a une direction à NMO qui documente tout ça.
Est-ce qu'on le sait vraiment? On a affaire à des gens, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont redoutablement intelligents et qui savent en fait aussi. Vous voyez, vous parliez de cet excès d'émotion. Je suis d'accord avec vous. Dès qu'il y a excès d'émotion, il y a plus de raison politique.
Dans cette émission,
je dirais que qui les agite? Les influenceurs sont de véritables relais aussi de cette poussée vers l'émotion.
On alors, écoutons Yves Verhoeven. À qui on a affaire, donc, quand on traite avec la Tunisie, qui s'est quand même très fortement autoritarianisée, je ne sais pas comment on dit ça, derrière Kais Saïeb, quand on traite avec Poutine, par exemple, on sait à qui on a affaire. Voilà. Donc, sachons à qui on a affaire quand on traite avec le régime algérien actuel. Bon. Je ne suis pas d'accord, en revanche, quand vous dites qu'il n'y a pas de lien avec les enjeux mémoriels, parce que si, précisément, il y a un lien, puisque ce régime n'ayant pas une très forte légitimité démocratique, et même, il n'en a pas, il cultive une rente mémorielle.
Absolument.
C'est pour ça, je le dis, qu'il ne faut pas lui donner l'occasion de faire fructifier cette rente, parce que même si ça marche un peu moins, je crois, dans les nouvelles générations, ça peut quand même lui servir, hein, dans ce mélange de sentiments et de ressentiments vis-à-vis de la France, à ressouder une partie de son peuple derrière lui. Et c'est dommageable. Moi, je dirais que pour la partie française, je vais laisser de côté la dimension mémorielle, je veux juste dire comme Makhalid Afourcade que je ne suis pas sûr que tous nos compatriotes aient bien en tête ce qui s'est passé en Algérie. Pour ma part, j'ai découvert dans les gorges du Rerata, entre Sétif et Béjaïa, qu'il y avait eu des émeutes, hein, les émeutes de Sétif et le Mara, et alors c'était écrit sur les murs, je regardais les singes magots, c'est magnifique, 45 000 morts. Alors après, je me suis documenté, en fait, ce n'est pas 45, c'est plutôt 8, 10, 15, c'est trop. D'ailleurs, il y a un endroit où ça a été mentionné, c'est le film Indigène. Au début du film Indigène, on voit le début de ces émeutes et la façon dont les Français ont réprimé dans le sang. Et c'est le 8 mai 45. Hein.
Film Indigène qui racontait l'histoire de soldats des colonies qui venaient combattre
France. Ça, c'est le bon côté. Mais alors, ça m'emmène au sujet qui est le plus important. Je ferme la parenthèse mémorielle. on traite avec un régime. On a besoin de lui, et on a besoin, par exemple, qu'il reprenne les OQTF. Il faut quand même rappeler qu'il en reprend autant que le Maroc et que la Tunisie. Pourquoi mettons à ce point-là l'accent sur ce régime, la pression sur ce régime, alors qu'il en reprend autant, ce qui d'ailleurs en représente pas mal, hein, parce qu'il y a plus démographiquement d'Algériens. Alors je comprends qu'on le fasse quand on voit qu'un assassin algérien à Mulhouse, commet ses méfaits et ses crimes, alors qu'il devrait être ailleurs, mais justement... Le but de la France, faisons un peu de realpolitik, c'est d'avoir avec l'Algérie une relation suffisamment constructive pour qu'il reprenne les OQTF. Pour l'instant, Bruno Retailleau, je suis désolé, les résultats, c'est pas bézef comme on dit. Hein. Rien, que dalle. Ça l'aura certainement aidé dans sa conquête des républicains, mais pour l'instant, en quoi le taux de reprise par l'Algérie des OQTF a-t-il augmenté? Et puis surtout, sur le registre sécuritaire, nous avons besoin de l'Algérie pour lutter contre le terrorisme islamiste qui a tué des gens jusqu'à dans les salles de concert à Paris. On a besoin des Algériens quand on survole l'Algérie pour aller au Sahel où nous sommes en recul total. En recul total, on a été chassé du Mali, du Burkina Faso, du Tchad. Est-ce qu'on ouvre un nouveau front? Est-ce que c'est malin de faire ça? Eh bien non, c'est pas malin, y compris de la part du ministre qui est chargé de la sécurité intérieure. Mais encore une fois, moi, ce que je redis, c'est que je souhaite que le ministre des Affaires étrangères et surtout, le président de la République reprenne la main. C'est un appel de M. Tebboune aujourd'hui. Qu'il le fasse et qu'il siffle un peu la fin de cet interlude très pénible et surtout très contre-productif parce qu'encore une fois, je ne vois pas ce qu'on y a gagné pour l'instant, nous les Français.
Qu'est-ce qui pourrait contribuer à apaiser un petit peu les tensions entre les deux pays, Anne-Lorraine Bugeon, entre la France et l'Algérie?
Alors là, en effet, que je pense que le dossier revienne entre les mains du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, en effet, qui s'exprime un peu sur un autre registre. Et je crois effectivement séparer les questions diplomatiques, politiques, géopolitiques de nos questions internes. Moi, je voudrais quand même dire, je suis également d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-François Colosimo, mais ce qu'il a dit sur la nature autoritaire et épouvantable et détestable de ce régime est parfaitement compatible avec le fait que c'est aussi un enjeu en France et de politique intérieure française, tout simplement parce que nos histoires sont tellement interpénétrées maintenant, c'est-à-dire que faire l'histoire de la France en Algérie, c'est faire l'histoire de milliers de Français, de jeunes Français aujourd'hui, c'est absolument indispensable, et le contraire est vrai aussi, donc il y a une part d'histoire d'Algérie dans la nôtre, il y a une part l'histoire de France en Algérie, et il faut faire avec ça. Donc, je pense qu'il faut faire un travail d'histoire, et il a été lent à se faire. Maintenant, on rattrape le temps perdu, et c'est très bien, mais moi, je fais partie des générations à qui on n'a jamais appris la moindre chose sur la colonisation. Nous, on a eu un très beau chapitre dans nos programmes d'histoire sur la décolonisation. C'était merveilleux, on était grandiose grâce au général de Gaulle. Je ne sais pas quand et comment nous sommes allés coloniser ces pays. Enfin, je me suis renseignée un peu depuis. Ce travail d'histoire doit être fait. Je crois que le travail de mémoire devait être fait aussi, la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin, etc. Mais il ne faut pas les mélanger avec les questions politiques et géopolitiques.
Un tout petit mot de conclusion.
Si on ne veut pas mélanger, qu'il en soit ainsi, arrêtons de mélanger politique extérieure et politique intérieure. Faisons pas de Retailleau le seul protagoniste d'une histoire qui dure depuis des décennies. La vérité, c'est que la France doit mettre fin à l'exception algérienne, parce que cette exception que les Algériens revendiquent en permanence, pour l'instant, elle n'a été qu'à l'intérêt de l'Algérie. Quant au fait d'opposer le président de la République et le ministre de l'Intérieur, il faut bien se rendre compte tout de même que celui qui a mis fin à l'exception algérienne, c'est Emmanuel Macron, lorsqu'il a reconnu, à tort ou à raison, la souveraineté marocaine sur le Sahara espagnol. C'est là le nœud de l'affaire. Il n'y en a pas d'autre. Et ça, c'est en fait une manière de dire aux Algériens, vous ne pouvez pas continuer à profiter de ces 30 mémorials.
Allez, on passe à un autre dialogue à la fois compliqué et passionné, autre que celui entre la France et l'Algérie, c'est le dialogue social, et c'est en France.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
La CGT a décidé ce soir de quitter ses concertations et d'appeler les salariés à se mobiliser. Le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou. Et il nous a dit ce week-end qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale. En disant cela, non seulement le Premier ministre trahit sa parole, mais il trahit des millions de salariés qui se sont mobilisés pour l'abrogation de la réforme des retraites pendant 6 mois.
Et les portes claquent au conclave sur les retraites. On se croirait dans une pièce de boulevard. Vlam, vlam et revlam. Ça, c'est le bruit des portes qui claquent. Après Force Ouvrière, après l'organisation patronale UDP, Union des entreprises de proximité, c'est la CGT qui a décidé de quitter la table des négociations. La faute au patronat et au Premier ministre, selon Sophie Binet, vous venez de l'entendre, la numéro 1 CGTiste. Mais quelle mouche a donc piqué François Bayrou dimanche dernier chez nos confrères de France Inter, interrogé sur les discussions en cours entre partenaires sociaux en vue d'un amender la réforme sur les retraites de 2023. Le Premier ministre a écarté l'hypothèse d'un retour de l'âge légal de départ à 62 ans, déclenchant aussitôt une bronca syndicale. Trahison. Alors, il est vrai qu'en inaugurant cette discussion au début de l'année, François Bayrou avait eu des accents freudiens en promettant un débat sans totem ni tabou. Autrement dit, sentez-vous libre de modifier la loi à condition de ne pas remettre en cause l'équilibre financier du système. Une carte blanche qui a désormais peu de chances de se transformer en fumée blanche, en dépit du recours à ce terme de conclave. La discussion n'était de toute manière pas très bien partie. D'un côté, des syndicats de salariés désireux de remettre en cause le nouvel âge légal de départ fixé à 64 ans. De l'autre, des organisations patronales hostiles à une telle démarche. Alors à cela est venue s'ajouter la nouvelle donne internationale. Trump de retour, besoin d'investir dans la défense, pas le moment de faire des concessions coûteuses sur le plan social, fermer le rideau. La CFDT a beau vouloir tenter de maintenir les discussions sous une autre forme, en s'émancipant de la feuille de route du gouvernement, c'est mal parti. L'occasion était pourtant belle de relancer un dialogue social malmené ces dernières années. Dès son arrivée au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron avait d'ailleurs théorisé sa vision du rôle des partenaires sociaux. Agissez dans vos entreprises, mais pour ce qui est des questions qui engagent la nation, laissez faire le législateur. Un mépris des corps intermédiaires que le conclave aurait pu réparer. Alors la France a-t-elle définitivement perdu le sens du dialogue social? Nous sommes toujours en compagnie pour en débattre de Jean-François Colosimo, d'Anne-Lorraine Bujon, d'Yves Bertoncini et de Magali Lafourcade. Magali, plusieurs organisations ont donc claqué la porte du conclave. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de ces discussions pour amender ou tenter d'amender la réforme de 2023 sur les retraites?
En tout cas, c'est la fin de la façon dont c'était cadré par le Premier ministre, puisque donc il s'est immiscé dans un jeu qui qu'il avait voulu laisser aux partenaires sociaux, et donc il a changé les règles du jeu en cours de route, en annonçant que un des aspects, il y a plusieurs paramètres qui sont discutés autour de cette réforme, mais un des aspects qui était le départ de l'âge de la retraite est donc préempté par le Premier ministre. Alors bien sûr, c'est assez tragique parce que c'est à rebours en fait de ce qui constitue un peu l'ADN politique de ce Premier ministre-là, et ça révèle à quel point le dialogue social aujourd'hui est abîmé en fait par l'exécutif. Mais en même temps, qui peut vraiment croire que ce gouvernement allait accepter de revenir sur l'âge légal de la retraite? On voit bien que là, il y avait un accord qui était aussi un accord de non-censure avec les socialistes, donc il y avait une dimension d'appareil politique et d'équation politique du chef du gouvernement. Et je crois que ce qui est triste, c'est ce que ça dit de la parole politique dans nos opinions, dans l'opinion publique. D'abord, c'est installer l'idée que c'était possible de revenir sur l'âge légal, puisqu'il avait dit sans totem ni tabou. Et ensuite, on voit qu'il a même pas attendu le mois de mai ou de juin, qui était la fin officielle du conclave, pour pouvoir prendre une position.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une forme de naïveté, voire peut-être un petit peu aussi d'hypocrisie de la part des organisations syndicales, d'imaginer que ça puisse être remis en cause, cet âge légal, a fortiori avec la nouvelle donne internationale qui fait qu'on entend bien d'un peu de partout, c'est-à-dire de dire il va falloir faire des efforts et on peut pas à la fois demander des efforts aux Français et revenir sur l'âge légal de la retraite.
Je crois que ça a été le plus mal vécu, c'est l'argument géopolitique, parce que ça laisse entendre que ce serait naturel d'opposer le modèle social, c'est-à-dire les services publics, le système de retraite par répartition, avec l'idée de réarmer le pays, alors que ce sont deux choses qui doivent cohabiter ensemble et qui doivent justement être l'objet d'un débat démocratique. Ce qu'a dit le chef de l'État, c'était on va réarmer le pays sans nouvelle hausse d'impôts. Donc évidemment, l'équation, elle devient très très difficile. Et donc ça veut dire qu'on va aller taper sur le modèle social. Et quand même, le modèle social, il vient du Conseil national de la Résistance. Et c'est cette idée que la démocratie sociale était un modèle extrêmement important qui s'appuyait sur le paritarisme de gestion qui a plutôt bien fonctionné, avec une efficacité, et sur ce dialogue social. Et depuis que Macron, que le président Macron a installé une nouvelle verticalité, on voit que les partenaires sociaux se retrouvent vraiment cornérisés, et ça nuit à la démocratie sociale qui était quand même quelque chose de fondamental dans notre modèle.
Anne-Laurène Bujon, cet argument de la situation internationale, vous considérez comme Magali Lafourcade que c'est un mauvais argument, qu'on peut concilier à la fois le respect de notre modèle et ces nouveaux efforts qui sont demandés à la nation?
Oui, on peut et il faut. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois qu'on présente le débat en disant qu'il va falloir choisir entre nos libertés politiques et la démocratie sociale, je pense qu'on est très mal embarqué, parce que le projet de la démocratie libérale européenne, c'est bien un projet où on a à la fois les libertés politiques et l'État social. Moi, ce qui me frappe dans toute cette séquence, si vous voulez, c'est le point auquel la question des retraites, précisément, et de la réforme des retraites, est devenu un abcès de fixation pour la question sociale en France depuis presque 10 ans, hein, en réalité, parce que c'est d'abord la loi El Khomri, la réforme du code du travail à la fin du quinquennat Hollande, et puis ensuite c'est un nouveau projet de réforme des retraites, donc en 2019-2020, avec une CFDT notamment qui signale de manière très claire qu'elle est prête à travailler à cette réforme avec le nouveau président de la République. Donc il y a cette espèce de main tendue de la CFDT qui ne sera pas saisie. Et donc on voit là le mépris des corps intermédiaires qui s'installe dès le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, et vraiment comme presque sa signature. Alors qu'on s'attendait peut-être à trouver effectivement un héritier de la deuxième gauche rocardienne. Eh bien non, pas du tout, patatras.
Parce que c'est comme ça qu'il faut rappeler, c'est comme ça qu'il se présenter, en tout cas, il revendiquait une forme d'héritage de Michel Rocard.
Est-ce qu'il l'a revendiqué? Est-ce que ce sont les gens autour de lui qui le lui ont prêté?
À l'époque, il contribuait à la revue Esprit, d'ailleurs, je rappelle.
Tout à fait. Donc, en tout cas, il y a eu cet espoir, et chez nous, très nettement, qu'il serait l'héritier de cette deuxième gauche, voilà, autogestionnaire. Mais c'est presque la première chose sur laquelle on a déchanté très, très vite avec Emmanuel Macron, mais précisément avec ce camouflet infligé à Laurent Berger. Et en fait, depuis cette réforme de 2019-2020 qui devait être une réforme systémique et pas une réforme crispée sur des paramètres, voilà, on s'est complètement focalisé sur la question de l'âge du départ à la retraite, qui est en fait vraiment, ça n'est pas la bonne question. En réalité, on sait très bien qu'au moment de l'âge légal de départ à la retraite, il y a déjà beaucoup de gens qui ne travaillent plus. Et donc l'idée qu'on a eu tous ces débats et des débats empoisonnés sur la réforme des retraites et qu'ils ont donné lieu à un très grand mouvement ensuite de mobilisation en 2023 avec un regain d'union syndicale qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc est-ce qu'il y avait là renouveau du dialogue social? En tout cas, il y avait renouveau du dialogue intersyndical et une très grande majorité des Français opposés au passage de cette réforme des retraites qui est passée en force. Donc évidemment, cette question ensuite revient, mais elle revient aussi sous un mode très très politique. Et donc il faut la traiter à la fois en elle-même, cette question de la réforme des retraites, impossible réforme des retraites, et aussi pour ce qu'elle nous dit d'un certain état de la politique dans notre pays, où à chaque fois qu'il y a eu un grand mouvement social ces dernières années, il a été traité par le mépris, et on a trouvé que des grands débats nationaux, des conclaves, des rencontres de Saint-Denis, je sais pas quoi, des machins qui ne fonctionnent absolument pas. Alors si on veut plus de l'ancien système de gestion paritaire des organismes sociaux, très bien, mais qu'est-ce qu'on propose de mettre à la place? Ça, c'est pas clair du tout.
Puisqu'on a évoqué le rôle d'Emmanuel Macron, écoutez ce qu'il disait à propos de sa façon d'envisager le rôle des partenaires sociaux. C'était en février 2019, justement, c'est-à-dire c'était un peu moins de 2 ans après son arrivée à l'Élysée.
On dit aux partenaires sociaux, trouvez-nous une solution pour le chômage. Vous êtes autour de la table, vous êtes responsable. Ben, comme c'est difficile, elles ont rendu hier au gouvernement la copie. On est dans un drôle de système tout de même, où chaque jour, dans le pays, on dit « corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire ». Et quand on donne la main, on dit « bon monsieur, c'est dur, reprenez-la ».
Voilà, quand on donne la main, on dit « bon monsieur, c'est dur, reprenez-la ». Est-ce que finalement, peut-être que les partenaires sociaux sont en train de prouver aujourd'hui, Jean-François Colosimo, au président Macron, qu'il avait raison et que ce conclave, alors j'imagine que l'historien des religions que vous êtes ne doit pas adorer ce terme, mais que ce conclave n'était peut-être pas une si bonne idée que ça?
Alors vous avez raison sur le conclave, ça mérite quand même un éclaircissement, en dépit de l'éducation catholique présumée du Premier ministre, n'est-ce pas? C'est que le conclave, c'est le moment où on élit un pape, on risque peut-être d'avoir un conclave prochainement, même si on souhaite un prompt établissement au Saint-Père, ça réunit les cardinaux. On n'a pas le droit de s'exprimer ni avant, ni après, ni pendant, de faire des révélations, n'est-ce pas, sous peine d'excommunication immédiate.
Ah là, c'est pas le cas.
Voilà. On parle, hein. Donc, et deuxièmement, un conclave fonctionne sur la recherche d'une majorité aux 2/3 pour élire un pape, il faut que les 2/3 des cardinaux se mettent d'accord au fil des différents scrutins, de manière à ce que ce pape ne soit pas mal élu, parce que à 50+1, eh ben, c'est pas une élection, c'est une élection instable. Voilà. Alors donc, c'est plutôt un consistoire, qui est un rassemblement de cardinaux pour discuter de questions, mais bon, consistoire, peut-être que ça sonnait encore plus bizarre. La vérité, c'est que, vous le savez, en France, il n'y a pas de réforme, il n'y a que des révolutions. Tous les grenelles sociaux sont arrivés après de très très lourdes épreuves de force entre les forces sociales et les gouvernements impliqués, n'est-ce pas ? Alors là, la dernière fois, ça s'est passé à l'envers. C'est le gouvernement qui a imposé sa réforme. Et en fait, c'est certainement là qu'on retrouve une difficulté propre à la démocratie française, c'est que c'est pas parce qu'il y a un résultat a été obtenu que, en fait, on ne va pas remettre en question ce résultat dès lors qu'on considère qu'il n'a pas été obtenu de manière légitime, c'est-à-dire suffisamment concertée. Alors je crois que
donc c'est légitime de vouloir le remettre en cause. Enfin, il y a
bah, Et c'est disons que, effectivement, on peut pas dire que cette réforme avait fait l'objet d'une concertation et d'une unité si profonde, enfin, etc., même si on ne peut pas gouverner, évidemment, avec les sondages, et que la retraite, c'est le point difficultueux de la vie collective française. Juste pour finir, on peut se demander si le Premier ministre est naïf ou s'il est très rusé. Alors, naïf, parce que... naïf, parce que... Comment se fait-il qu'on dise, venez, on va tous discuter, puis d'un coup, avant même que ça démarre, on tire son sifflet, et on dit, ah ben là, je vous explique les limites de la conversation ouverte, sauf les limites que je vais vous donner, n'est-ce pas? Limite qui, demain, est raisonnable, parce que je vois pas comment la France en sortirait économiquement si on revient à l'âge de 62 ans pour les retraites. C'est pas la question. C'est pas le fond qui compte, là, c'est la manière. Mais peut-être, simplement, parie-t-il sur le fait que les socialistes redoute plus que tout de retourner devant les urnes, n'est-ce pas, particulièrement eu égard à la situation actuelle de l'ex-front populaire défunt sous les coups de la France insoumise, comme on a vu encore dernièrement, avec des positions outrancières intenables, entre autres l'affaire Cyril Hanouna, etc. Et donc, finalement, les socialistes sont condamnés, en quelque sorte, à, non pas à gesticuler, à, je dirais, à démontrer leur désaccord, mais ne peuvent pas faire tomber le gouvernement. Et Bayrou, en fait, a fait de ce conclave la démonstration que peut-être c'est une sorte de préélection pontificale pour lui.
Peut-être d'ailleurs que ce conclave et Vertoncini peuvent servir à autre chose que remettre en cause l'âge légal de départ à la retraite. C'est-à-dire il y a d'autres sujets, il y a les carrières longues, il y a les pénibilités. Est-ce que vous diriez, vous, qu'il faut de toute manière essayer d'en tirer le maximum malgré les limites imposées dimanche dernier par le Premier ministre?
Bah, oui, je crois qu'il y a d'abord un rejet populaire de la réforme telle qu'elle a été mise en œuvre. Le rejet populaire, effectivement, il n'y a pas que les sondages, hein, il y a aussi des manifestations sociales. Il y a eu des élections législatives suite à la dissolution et ceux qui sont sortis avec une majorité de sièges, même si ça ne forme pas une coalition, étaient plutôt contre la réforme telle qu'elle a été conduite. La question, c'est est-ce que les Français sont... défavorable au principe même de la réforme, je ne crois pas. Je crois que les Français savent bien qu'il faut réformer le régime des retraites pour les pérenniser. Ça fait partie de notre modèle social, c'est le modèle social européen. Est-ce qu'ils sont défavorables, opposés aux acteurs de la réforme? Là, je crois clairement oui. Et je vais y revenir, c'est un enjeu de légitimité. Les acteurs se sont délégitimés. Les acteurs politiques...
Vous pensez à qui, quand vous parlez des acteurs de la réforme?
Le président de la République, vous avez parlé de président Jupiter, là c'est le roi Dagobert, hein, c'est-à-dire qu'il a mis sa réforme et son pays à l'envers, pour dire les choses comme ça. Non mais vous avez dit, c'est une expression de Jean-François Colisimo, tout a été fait à l'envers dans cette réforme des retraites. La réforme des retraites, donc le haut commissariat qui s'en souvient, Jean-Paul Delevoye, 2017, système universel à point, et puis d'un coup on passe à autre chose, système donc réforme paramétrique. Et puis à un moment, le président avait quand même dit qu'il n'y avait pas besoin de réforme des retraites, et puis maintenant il en faut une, et puis après on met cette réforme dans une forme d'effectivement d'accord de bout de table avec les socialistes pour éviter une censure. Enfin bon, tout ça est fait à l'envers. Et je le dis parce que je prends un regard européen. Nous ne sommes pas les seuls à devoir réformer nos systèmes de retraite. C'est un modèle européen, le système de retraite par répartition. Globalement, tous les pays européens ont augmenté l'âge du départ, à la fois légal, et vous avez bien fait, Anne-Lorraine, de distinguer, effectif, parce que il y a un totem sur l'âge légal. Vous voyez, en Suède, aujourd'hui, l'âge légal, il est à 63, donc vous pourrez très bien mettre à 63. C'est aussi un pays très, très social, la Suède. Mais l'âge de départ effectif, en revanche, est plus élevé. Et c'est vrai que la France est plutôt en dessous de la moyenne européenne sur l'âge légal, plutôt en dessous sur l'âge de départ effectif. Mais c'est un choix, c'est-à-dire qu'il faudrait définir les termes de l'arbitrage. Et puis peut-être que les Français veulent travailler un tout petit peu moins longtemps que la moyenne européenne, avoir une retraite, bon, faire des choix. Voilà. Le problème, c'est le problème de la légitimité. Voilà. On a une démocratie sociale faible, puisqu'on a un taux de syndicalisation très bas au regard du reste de l'OCDE et de l'Europe.
Et ça, c'est pas juste la responsabilité du président de la République.
Absolument. On a Alors, sa responsabilité, c'est que notre système politique a désormais une légitimité extrêmement faible, la sienne propre, celle de François Bayrou. Et puis, vous parliez de la culture du compromis. Écoutez, on s'essaye là une sorte de culture du compromis, compromis en majorité relative, c'est-à-dire en absence de majorité, alors que très souvent, tout ça fait l'objet d'affrontements binaires compte tenu des règles et de l'esprit de notre système à la fois démocratique et de notre système social. Et donc, il me semble que de toute façon, au-delà de ce conclave ou de cette réunion, il faudra trancher ça à nouveau par le suffrage universel et au moment de la prochaine élection présidentielle. C'est très difficile d'un point de vue de la légitimité de réformer les retraites. C'est quand même un choix existentiel. Hein. C'est pas la réforme... je veux pas en citer d'autres, mais ça, c'est combien de temps, jusqu'à combien de temps on va travailler. Et puis deuxièmement, combien de temps on va pouvoir vivre de notre retraite, si possible, en bonne santé. Ce système politique tel qu'il a dérivé depuis 7 ans n'avait sans doute pas la légitimité d'imposer une réforme par le 49-3 de surcroît, qui a été ressentie comme une forme de violence non légitime, effectivement, par une majorité, je le crains, des Français, même si, je le dis, je crois qu'il y a un accord de principe pour faire une réforme, mais peut-être pas celle-ci. Et avec d'autres acteurs, très, très certainement, et avec un autre contenu, parce que c'était le sens de votre question. Oui, il y a d'autres éléments que l'âge légal. Il y a aussi les carrières longues, les femmes. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'il faudrait essayer de traiter malgré tout.
Si on part du principe qu'il y a un consensus sur l'idée qu'il faut réformer le système, et après voir comment on le fait, comment est-ce qu'on arrive à du consensus, Magali Lafourcade, quand on a un problème, effectivement, de manque de légitimité du côté politique, mais aussi manque de légitimité du côté des organisations, notamment des organisations syndicales, eu égard, comme le disait Yves Bertoncini, au faible taux de syndicalisation en France.
Mais alors, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Yves Bertoncini. Moi, je crois qu'on a besoin justement de revitaliser le dialogue social, d'avoir un dialogue intersyndical très fort. On a vu que l'État a repris la main sur la dimension assurance chômage, sur la dimension formation. Il faut absolument que le dialogue social puisse s'exprimer tant sur les retraites que sur la question aussi du pouvoir d'achat. Des menaces actuellement qui pèsent sur l'emploi, elles sont nombreuses. Il y a aussi la réforme du RSA qui passe pas très bien. Et puis, l'avenir de la fonction publique. On a des tas de sujets qui sont extrêmement importants sur lesquels le dialogue social peut être revitalisé.
Et en même temps, il y a un vrai argument du côté du pouvoir de dire finalement les questions qui engagent la nation, c'est au législateur parce qu'il a laissé malgré tout une légitimité, le fait d'avoir été élu. Et par contre, pour ce qui est des accords d'entreprise ou des accords de branche, là, on laisse faire les partenaires sociaux. Ça peut se défendre, en tout cas, cette répartition-là.
Oui, mais cela dit, on a quand même été tous instruits de la séquence des retraites, des manifestations. On a entendu le président de la République dire c'est la foule qui s'exprime dans la rue et ne pas reconnaître qu'il pouvait y avoir un peuple qui s'exprime à travers ce rejet massif de la réforme des retraites. Et ensuite, on a eu un président de la République à ce moment-là qui nous a dit ce qui compte dans la démocratie, c'est la démocratie électorale, dans la démocratie représentative, en ayant l'air de penser que la démocratie sociale, c'était quelque chose d'assez secondaire, voire même inexistant. Et puis après, on a eu les élections de juin-juillet. Et ça, ce qui en est sorti, ça crée pas de la légitimité politique. Donc aujourd'hui, on a une crise démocratique. Pour pouvoir s'en sortir, on a intérêt à revitaliser la démocratie sociale et donner aux acteurs une visibilité, à cesser de les dénigrer. Dans la séquence que vous avez passée, où on entend le président de la République dire c'est trop difficile, monsieur, on vous redonne la main, comme si c'était... Enfin, c'est hyper infantilisant, c'est extrêmement dénigrant pour les partenaires sociaux, alors qu'on sait bien que le cadrage qui avait été fait à l'époque était extrêmement difficile et rendait tout accord très périlleux, très difficile à obtenir. Donc, il y a aussi ce que met l'État dans la balance quand il fait une lettre de cadrage. Et j'observe que pour le conclave, au départ, c'était de ne pas dégrader les comptes du système de retraite, et que dans la lettre qui est sortie en février de Monsieur Bayrou, c'était obtenir un équilibre financier d'ici 2030. Donc déjà, les termes avaient changé entre le lancement le 17 janvier et puis la lettre de cadrage. Il faut aussi laisser une certaine ampleur. Et aujourd'hui, la CFDT fait quelque chose de très astucieux en disant, on va se saisir de ce conclave pour avoir une discussion avec le patronat, à 3 syndicats de salariés face à 2 syndicats de patronat, pour pouvoir trouver d'autres termes. Et je trouve que ça, c'est très malin.
D'un mot très très rapide, Jean-François Colosimone, la Reine Bujon, s'il fallait prendre exemple sur un autre pays, on parle en général de l'Allemagne et sa culture du compromis, c'est comme ça qu'il faudrait...
Moi, je crois qu'on est parfaitement étranger à cette culture allemande, et d'ailleurs... Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes notions de travail et d'intérêt collectif, malheureusement, n'est-ce pas ? C'est pas la même culture. Non, je pense qu'il faudrait évacuer, en fait, la mauvaise histoire des syndicats en France, qui sont toujours constituée en fait en communauté d'intérêts idéologiques avant même de s'occuper en réalité du travail et des travailleurs. Et ça, c'est une expérience, je dirais, concrète pour ce qui est de ma part dans ma famille.
Anne-Laure Béjean.
En fait, moi, je me méfie un peu toujours de ce vocabulaire de l'apaisement, de la réconciliation, du compromis, parce que, en fait, non, le compromis, non, mais c'est-à-dire que si on veut que des négociations portent leurs fruits, il faut bien commencer par laisser les différentes positions s'exprimer. Enfin, la politique, c'est aussi du conflit. Donc, on peut espérer avoir du conflit d'une manière civilisée et autrement que par des manifestations de rue ou des révolutions, mais il faut bien que les différentes position puisse s'exprimer. Et ce que je trouve désolant dans toute cette affaire de la réforme des retraites, c'est qu'on n'a jamais parlé du travail, qui est pourtant un sujet de préoccupation majeure pour les Français aujourd'hui. Travail, inégalité. Est-ce qu'on peut en parler vraiment ?
Peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine discussion dans cet espace, justement, dans lequel on essaie de débattre chaque dimanche. Merci beaucoup Anne-Laure Béjean, Jean-François Colosimo, Magali Lafourcade et Yves Berton-Sini. Merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé cette émission, à Luc Jean-Reynaud qui l'a réalisé à la prise de son aujourd'hui. Il y avait Dali Yaha. On se retrouve dimanche prochain.